you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Copelia Ménardi, Camille André, prise de son assurée ce soir par Clément Daté, réalisation Daniel Fino. Autour de moi, Lucille Como, Fabienne Pasco et Philippe Cheviec, qui nous allons parler de art, de Yasmina Reza, mise en scène par Tris Kerbra à l'affiche du Théâtre Antoine à Paris. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Chloé Dabert à la Comédie Française au Théâtre du Vieux Colombier. Et enfin Bluebird de Simon Stephens, mise en scène par Claire Devers au Théâtre du Rond-Point. Boris Pino est là qui surveille d'ores et déjà les commentaires que vous pouvez déposer sur Facebook ou sur Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition en suspens à découvrir jusqu'au 13 mai au Bal à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec Art, pièce culte de Yasmina Reza, créée en 1994 dans une mise en scène de Patrice Kerbra, pièce traduite en 35 langues, jouée dans les théâtres les plus prestigieux à travers le monde. C'est Patrice Kerbra qui est à nouveau aux commandes de cette production, qui réunit à l'affiche Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager. Pour rappel, il s'agit d'une histoire dans laquelle l'amitié entre trois hommes se trouve remise en question lorsque l'un d'eux achète au prix fort une toile blanche avec de fins liserés blancs.
Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches sur un fond blanc.
L'Antrios n'est pas blanc.
Non, bien sûr. Mais c'est pour dire...
Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan ?
Pas tout à fait, non.
Ah bon ? Et tu vois quoi comme couleur ?
Je vois des couleurs. Je vois du jaune. Du gris, des lignes un peu ocre.
Et tu es ému par ces couleurs?
Oui, je suis ému par ces couleurs.
Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque.
Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça?
Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé parce qu'il croit être la culture. Culture que je vomis définitivement, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui te prend? Mais
comment peux-tu, Yvan? Devant moi, Yvan.
Devant toi quoi? Tes couleurs me touchent, oui, ne t'en déplaise, cesse de vouloir tout régenter.
Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent?
Parce que c'est la vérité.
La vérité. Ces couleurs te touchent.
Oui, ces couleurs me touchent.
Ces couleurs te touchent. Yvan!
Ces couleurs le touchent! Il a le droit!
Non! Il n'a pas le droit!
Comment? Il n'a pas le droit!
Il n'a pas le droit!
Tu n'as pas le droit?
Non!
Pourquoi? Il n'a pas le droit! Tu sais que tu n'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter!
Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent! Parce que c'est faux!
Non, ces couleurs ne touchent pas!
Il n'y a pas de couleurs! Tu ne les vois pas! Et elles ne te touchent pas!
Parle pour toi!
Quel avilissement, Yvan!
Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi?
Marc, c'est Charles Berling, celui qui a acheté le tableau. Serge, c'est Alain Fromager. Et Yvan, ici, prise à partie, c'est Jean-Pierre Daroussin. Et celle qui commence à nous en parler, c'est Lucille Como, qui n'était pas à la création. Vous étiez bien trop petite.
Non, puis c'est la première fois que je vois cette pièce que j'avais lue, je crois, dans un cadre scolaire, mais dont je me souvenais assez peu, finalement. Et un spectacle que j'ai vu avec à la fois beaucoup d'ennui et d'agacement. Alors... je pense que vous allez être très, très agacé par ce que je vais commencer à dire. Parce mais que vous moi, préjugez, la pièce...
Lucille, vous
non,
préjugez.
Mais je sais que le débat autour du fond de cette pièce et de ce qu'elle dit de l'art contemporain, en l'occurrence, est un débat qui a déjà été donné. Sauf que moi, ça, la pièce me pose de toute façon un problème de ce point de vue-là. Je la trouve quand même profondément réactionnaire. Je la trouve très anti-intellectualiste. D'ailleurs, pas seulement sur l'art contemporain, mais sur l'ensemble de ce que peut être la pensée ou la culture en général. Et je trouve que c'est difficile de ne pas se poser cette question tout au long de la pièce. On a trois personnages, vous le disiez Arnaud, sur scène, qui livrent en effet tous les trois un discours différent sur le tableau et en général sur la pensée ou la culture. Sauf que ce que fait le spectacle, alors je ne sais pas si c'est le texte, parce qu'encore une fois, c'est une première pour moi, mais en tout cas, ce que fait ce spectacle que j'ai vu moi hier, c'est favoriser nettement un des discours, qui est le discours dont on entendait là l'écho, qui est celui de Charles Berling, donc de Marc, qui, parmi les trois personnages, à mon avis, est clairement le moins ridicule, en tout cas montré comme tel par la mise en scène. Et donc, c'est celui qui tient un discours de type « ce con qui a acheté un tableau blanc à 30 000 euros, quel idiot », etc. Donc, je trouve que c'est un spectacle qui pose des problèmes de ce point de vue-là et qui, par ailleurs, ne donne pas vraiment à penser, parce que pourquoi pas un texte profondément anti-moderne qui questionne ce que c'est que l'art contemporain. Entre parenthèses, ce n'est plus l'art contemporain, donc il faut ajouter ce paramètre-là au spectacle. C'est-à-dire que en 2018, voir ce spectacle-là, je pense que c'est pas du tout la même chose qu'en 1994, dans la mesure où aujourd'hui l'art contemporain, ce ne sont pas des tableaux blancs avec des lignes blanches dessus. Donc, je trouve qu'en plus de ce caractère un petit peu réactionnaire, il y a quelque chose d'assez rance en fait dans ce texte qui pourrait être un classique et d'ailleurs le succès du texte montre que c'est en train de devenir un classique mais qui pour moi manque pour devenir un classique d'une pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui transcende les conditions de son écriture, donc le texte ne m'intéresse pas du tout, donc je me suis quand même beaucoup ennuyée. En plus la mise en scène, bon, on va revenir dessus, mais est tout à fait minimaliste et encourage à mon avis les travers justement du texte plus qu'elle ne les transcende. J'aurais vraiment aimé voir entendre ce texte dans un autre type de spectacle qui flatte moins ses côtés peut-être un peu populistes. Là, moi, j'ai vu une machine à faire entendre trois acteurs que le public adule. D'ailleurs, quand le rideau se lève, les gens applaudissent la présence même unique, sans parole, de Charles Berling sur scène. Tout le monde est acquis, évidemment, à la cause de ce spectacle. Et du coup, tout le monde est acquis à une cause, la cause de Marc, entre guillemets, qui est de se foutre de la gueule de son copain qui a acheté un tableau blanc. Ça pose quand même des petites questions, à mon avis.
Sur lesquelles on va revenir avec vous, Lucie, dans un instant. Fabienne Pascaud, votre regard sur cette nouvelle production. Alors, même si Patrice Cabra dit il a fait quelques changements, c'est quasiment... les comédiens ne sont plus les mêmes, mais la mise en scène et en tout cas la direction... est à peu près la même. Votre regard, Fabienne ?
Alors moi, je fais partie de ceux, comme Philippe, sans doute, qui avaient vu la création en 1994, puis les multiples avatars de l'interprétation, de Jean Rochefort à...
Jean-Louis Trintignant, à Pierre Vanneck, à Pierre Arditi,
voilà. Pierre Vanneck était resté... Fabrice Luchini. Voilà, tout à fait. C'était à la création, ça, ouais, Arditi ouais. Et Luchini, qui s'étaient d'ailleurs disputés les rôles, parce que Arditi voulait le rôle de Luchini, pensait que le rôle d'Ivan que joue maintenant Darroussin était moins intéressant, et en fait c'est lui qui a remporté le morceau parce qu'il a un numéro de pauvre type paumé qui est tout à fait réjouissant. Alors je partageais à la création totalement l'avis de Lucille, hein, bien entendu, et j'avais été très irritée de cette attaque réac contre l'art contemporain. Là, le Lantrios suggère évidemment l'œuvre de Martin Barret, qui est un immense artiste contemporain, et je trouvais que la satire ricanante de Yasmina Reza était du plus mauvais goût, quoi. Vraiment, ça m'avait choqué, ça m'avait horripilé. Et puis, en revoyant le texte, je trouve la satire de l'art contemporain, c'est pas vraiment l'art contemporain, c'est la modernité. Tout ce qui est moderne déplaît à Yasmina Reza, qui est plutôt du côté de Schnitzler ou de Tchekhov ou de Nathalie Sarraute que de ce qui se crée aujourd'hui. Et là, la satire de l'art contemporain, à vrai dire, je la trouve tellement idiote, puis j'ai eu tellement l'habitude de l'entendre que c'est pas ce qui m'a intéressée. Et Yasmina Reza disait toujours que ça n'était pas qu'on n'avait pas compris la pièce parce qu'on avait certains critiques, dont moi sans doute, avaient focalisé trop sur cette critique de l'art contemporain, que c'était pas le sujet. Et je pense, en revoyant la pièce près de 25 ans après, qu'effectivement, c'est peut-être pas le sujet. Et le sujet dont elle parle m'a plutôt plu. Parce qu'à l'heure de l'affaire Weinstein, de tout ce qui se passe sur la libération de la parole des femmes, j'ai vu sur scène trois hommes paumés. Et Laurent Ruquier dit dans Laurent Ruquier, qui est un des propriétaires du théâtre, dit qu'il avait voulu au départ, confier le trio à trois femmes, trois comédiennes, et qu'Yasmina Reza s'y était opposée en disant que c'est un trio d'hommes. Et c'est vrai que ce qu'elle raconte, avec un regard assez subtil, c'est trois hommes d'aujourd'hui, paumés, qui savent plus où ils en sont, paumés dans leur couple, ils aiment plus trop leur femme, ils s'ennuient avec elle, ils se battent un peu parce que l'un des deux dit que la femme est moche, ou enfin bref. Mais on sent que ils se plaisent entre amis, entre hommes. Il y a un vague parfum d'homosexualité qu'on peut peut-être comprendre. Et moi, ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé dans cette pièce, c'est justement ce regard de femme porté sur trois hommes, avec tout ce que ça peut, tout ce qu'il y a d'assez original dans cette saisie qu'elle a du malaise des hommes par rapport à leur métier, par rapport aux femmes, par rapport à l'art, des hommes qui savent plus où ils en sont. Alors ça, j'aurais beaucoup aimé cette partie de la pièce, mais je trouve que c'est pas bien interprété, quoi. Et ça, quand on entend le pauvre Cher Berling, qui est un acteur prodigieux, un magnifique directeur du Théâtre des Libertés à Toulon, s'époumonner, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, essayer d'en faire, ne pas avoir la moindre subtilité dans son jeu. Jean-Pierre Darroussin, il est trop vieux pour le personnage. On peut pas croire qu'il va se remarier. On peut pas croire qu'il soit si pâteau, quoi. Il a la soixantaine, Jean-Pierre Darroussin. Il est formidable. C'est un acteur magnifique. Mais c'est pas dans la distribution. Il y a Alain Fromager, qui est un acteur aussi très subtil, qu'on a vu dans des rôles chez Martinelli, dans plein de spectacles formidables. Ben, il se débrouille, mais il n'a pas de partenaire à sa mesure. Et je trouve que vraiment, l'interprétation n'est pas fine. Et quant à la mise en scène, alors là, je vous le dis tout de suite, elle n'a pas changé depuis 1994.
Et ce n'est pas forcément un compliment dans votre bouche. On y reviendra. Philippe Chevillier sur cette production de art.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec pratiquement tout ce que j'ai entendu. La première chose, c'est qu'il me semble qu'il y a un oubli majeur dans l'analyse de cette pièce. C'est la dernière réplique qui, moi, je l'ai pas vue à la création. Je l'ai vue en 98 et je me souviens à Ramatuelle, je crois, dans le petit théâtre. Et j'avais ce public-là qui effectivement riait à gorge déployée et se moquait de l'art contemporain. Sauf qu'à la toute fin, il y a une espèce... Je ne peux pas raconter la fin, parce que je ne le ferai pas. Mais la dernière réplique, justement, de Marc, qui est contre l'art contemporain, qui tout d'un coup donne une définition du tableau et de pourquoi il l'aime. Et c'est ce renversement qui, moi, je me souviens, avait cueilli à froid à Ramatuelle. En tout cas, tout le public s'était à ce moment-là tué en disant on n'a peut-être pas exactement compris ce qu'on voulait nous raconter. Ça, c'est pour la partie art contemporain. Alors là où je suis d'accord avec Fabienne, c'est sur la dimension, ce que disait Yasmina Reza et ce qu'elle voulait faire dans la pièce, c'est-à-dire partir de ce prétexte pour, en fait, parler d'une amitié qui se délite entre trois hommes qui ont pas vraiment forcément réussi comme ils le voudraient leur vie, et qui sont tous les trois dans des planètes avec leurs obsessions, leurs frustrations, leurs tocades, et qui s'éloignent les uns des autres. Et ça, je trouve que c'est très bien rendu dans la pièce et dans ce que j'ai vu l'autre soir. Donc, en fait, la dimension dont parlait Lucie, l'art contemporain, c'est vrai que c'est plus comme avant, pas seulement parce que l'œuvre n'est plus une œuvre vraiment d'art contemporain, mais parce que le débat sur l'art contemporain, même s'il existe toujours, hein, puisqu'on en a tous les jours, on a de nouvelles histoires, mais c'est vrai que les gens se focalisent un petit peu moins là-dessus, à mon avis, que sur ces trois hommes qui se tapent dessus. Et moi, sur l'interprétation, alors c'est peut-être pas le même soir, mais j'ai trouvé que Darroussin d'avoir été hilarant, moi, il m'a fait rire, que Berling, peut-être qu'il en fait un peu beaucoup, mais qu'en donnant cette dimension presque déchirée, écorchée, vive, bouillant et tout ça, moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon. Et c'est Fromager que j'ai trouvé un petit peu en dessous, moi, personnellement. Et pour parler, bon, la mise en scène, on reparlera après.
Allez, on en parle après, mais quand même, enfin, ben, tout est lié. Mais alors, on a parlé d'art dans cette émission au mois de juin dernier. À l'époque, c'est le collectif flamand des Tégestanes qui avait présenté leur propre mise en scène d'art. Et bon, j'avais été frappé, comme toujours avec eux, par la qualité de jeu des comédiens flamands, cette façon d'attaquer les mots, les phrases, et qui se prêtait, trouvais-je, à ce moment-là, vraiment très bien à la férocité de Yasmina Reza. Et de fait, dans cette production d'art, j'avais tout à fait vu ce que vous décriviez, Fabienne Pasco, c'est-à-dire vraiment une histoire d'amitié, une histoire de trois hommes, une histoire de délitement, d'éloignement, de vie qui n'ont pas tenu leurs promesses, de désenchantement. Et finalement, le tableau était presque un MacGuffin au sens hitchcockien, quoi. Il était là, mais c'était pas du tout le sujet de la pièce. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas tellement prêté attention à cette dimension de critique de l'art contemporain, qui est effectivement une critique depuis l'origine. Et là, j'ai quand même beaucoup entendu ça. Et ce qui m'a pour le coup un peu choqué, notamment quand Marc dit à son ami Serge que tout a basculé le jour où il employait le mot déconstruction. Mmh. Alors je me suis dit, bon, alors si on attaque Derrida, ça ne va pas aller, je ne vais pas être du tout d'accord. Et ça, vraiment, les TGSTAN, je n'avais pas du tout entendu cette dimension-là, parce que c'était, on voyait trois hommes paumés, comme vous le disiez si bien, Fabienne. Là, on est vraiment dans la dimension boulevard avec... dans ma bouche, c'est un peu péjoratif, c'est-à-dire un jeu très appuyé, très forcé, il faut bien que le dernier rang entende, et les balcons aussi, c'est un grand théâtre, le théâtre Antoine, il y a beaucoup de projections, alors du coup on entend très bien chaque mot, c'est pas la question, mais la subtilité n'est évidemment pas du tout pour moi au rendez-vous, et puis puisqu'on n'est pas du tout d'accord les uns et les autres, moi je suis plutôt de l'équipe d'Aroussin, moi j'ai trouvé que c'était le seul qui s'en sortait, alors peut-être qu'il a effectivement pas l'âge, mais je trouve qu'il a
il a
le rythme, il a cette émotion que je vois pas du tout chez les autres.
Moi
j'aime bien Fromager aussi, mais dans cette production il est vraiment pas à son meilleur. Mise en scène, c'est effectivement un grand mot, parce qu'il y a ce décor alors qui lui n'a pas bougé depuis la création, vous me le confirmez, mais qui est vraiment le service minimum d'un certain théâtre privé. Là, il n'y a pas de mépris dans mon propos, mais c'est vrai que c'est le service minimum, là encore. Lucille Comeau ?
Oui, et en fait, c'est justement cette mise en scène extrêmement simpliste qui simplifie le propos. Je veux dire,
c'est un parfait exemple
de ce que la mise en scène peut faire à un texte et à quel point ça peut simplifier un texte ou occulter totalement un de ses aspects. En effet, la question de la cruauté que vraiment j'ai remarqué, qui arrive un peu après. Donc en plus, il y a une évolution dans ce texte, ça je nie pas. Il y a une évolution puisque ça part un peu en vrille. Là, on entendait un peu le point de bascule dans l'extrait qu'on a entendu. Le basculement, il peut pas être assuré avec cette direction d'acteur. C'est-à-dire que Charles Berling, quand il se met dans cet état-là, en fait, on n'y croit pas une seconde. Le pathétique, ça fonctionne pas. Le tragique, encore moins. Donc, du coup, la tragédie de la désamitié, qui est le seul truc intéressant du texte, en fait, on l'aperçoit pas dans ce type de mise en scène. Tous les effets de rythme, les effets de répétition sont faits pour qu'on rit à des moments, encore une fois, qu'on rit de ce pauvre type qui a acheté un truc à 30 000 euros.
Le fait est que la salle quasi entière rit.
Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez, Philippe, sur la fin, sur cette fameuse réplique finale, je trouve que c'est là que réside un peu le côté, vraiment, moi, à mon avis, l'imposture vraiment de cette pièce et de son écriture, c'est qu'on nous fait croire, y compris au Théâtre Antoine, dans un contexte de théâtre de boulevard, que c'est plus profond que ça. Donc il y a des petits effets un peu écrits, de répétition, qui font référence à un théâtre entre guillemets plus écrit ou plus classique ou plus intellectuel. Sauf que c'est pas vrai, on n'a rien à penser quand on sort de cette pièce. Le fond anti-intellectualiste, il est beaucoup plus fort que cette espèce de forme un peu accessoirisée. Quand sur les psys, il dit se foutre de la gueule du psy de Daroussin en disant que c'est n'importe quoi. Tout ça, l'espèce de fond qui est derrière, qui est plus que juste ces trucs de tableau blanc. Il y a vraiment un fond anti-intellectuel qui me gêne et qui est le fond de commerce de ce théâtre.
Non,
les gens,
ils
se marrent là-dessus.
Que des personnages disent ça, c'est une chose. Quand c'est transcendé par des interprètes et une mise en scène qui fait entendre une subtilité, encore une fois, TGSTAN, j'ai pas du tout vu le même spectacle. C'était il y a 6 mois et très frais dans mon esprit. Philippe Chevillier.
Dans toutes les comédies, il y a des personnages qui sont des caricatures. On parle chez Molière avec le Tartuffe.
Mais on devrait le détester.
Et moi, je suis désolé. Alors, on peut renverser. Si ça a été traduit dans Train de Saint-Lang, à mon avis, c'est parce que c'est pas une pièce de boulevard comme les autres. Je suis désolé. C'est qu'il y a quelque chose dans cette pièce, il y a une profondeur
qui se moque de tout ce qui dérange, donc ça plaît au plus grand nombre, c'est assez consensuel.
Pas forcément, parce qu'encore une fois, je suis désolé, pour un bourgeois qui regarde cette pièce-là, il ne voit que des échecs, et en plus il voit un type qui est le plus réac de tous, qui à la fin dit le contraire de ce qu'il disait au début, même dans une seule réplique. Mais c'est ça, et il n'y a pas que ça dans la fin de la pièce. Puisqu'il y a aussi, on ne va pas tout raconter, mais il y a aussi ce groupe d'amis qui essaie de se réconcilier. Et l'acheteur du tableau trouve un moyen pour essayer de se réconcilier. Et en fait, il a truqué ce moyen-là.
Oui, il se réconcilie sur un mensonge.
Sur un mensonge. Donc cette dimension-là, je pense qu'elle est assez forte dans la pièce. On ne va pas dire que c'est le chef-d'œuvre, c'est pas du Tchekhov et tout ça, mais je pense que moi, ça fait un trait entre, disons, Barry et Grady et Pinter. C'est entre les deux. Il y a quelque chose dans cette pièce. Et moi, je l'ai vu, le Tejestan. Mmh. Et j'ai, combien de gens m'ont dit, oh là là, mais ils ont changé toute la pièce. Mais pas du tout.
Non, ils jouaient la pièce.
Ils ont fait quelques impros, mais ils jouaient la pièce.
Ah oui,
alors après,
très
que la mise en scène, c'est une mise en scène de boulevard, mais pas de boulevard traditionnel, je suis désolé, parce que moi j'en vois, c'est quand même du boulevard chic, avec...
C'est très chic, mais justement...
Mais je ne comprends pas qu'Yasmina Reza, qui est si difficile, qui a repris à Ostermayer la mise en scène de Bella Figura, qui était pourtant une pièce on ne peut plus médiocre, qu'on a eu l'occasion de voir, de revoir au rond-point, et de la mettre en scène elle-même, sous prétexte qu'elle faisait mieux qu'Ostermayer, et confier à Patrice Kerbra une deuxième mise en scène, totalement inodore et sans saveur.
Elle a accepté qu'il reprenne sa mise en scène, ce qui pose la même question.
Oh, elle n'a pas accepté au niveau où elle en est. Je pense que c'est elle qui a décidé quand même, Yasmina Reza. Si elle avait voulu prendre quelqu'un d'autre, elle l'aurait pris.
Ah oui, bien sûr.
Dit, moi je me souviens d'avoir vu conversation après un enterrement, je crois que c'est la première, c'était Patrice Kerbra et elle était enthousiasmée par Kerbra. Oui. C'est un choix.
Après, elle n'a pas dit qu'elle ferait mieux qu'Ostermayer quand elle fait Bella Figura. Elle a fait la création française. Ça ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas de metteur en scène en France qui ait monté ce texte en français qui est quand même sa langue d'origine.
Oui, mais il aurait pu le monter avec des acteurs français, Ostermayer. Je suis sûr que la mise en scène de ça.
C'est une commande pour l'achat au Bune.
Bah oui, mais bon.
Donc, avec ces acteurs. Non, mais c'est juste pour rectifier deux, trois bricoles. Oui, c'est pas la question.
En tout cas, je trouve que la mise en scène est quasi inexistante.
C'est un choix étonnant.
Elle est minimale, mais elle n'est pas. Je trouve qu'elle est.
Mais vous parlez de Martinelli. Martinelli pourrait faire quelque chose, justement. Enfin, il y a d'autres metteurs en scène.
Elle oblige les acteurs à faire un sort à chaque mot, quoi. C'est pour ça que le public crie.
Elle est très orientée.
On entend les répliques, on entend le. Et puis après, peut-être qu'il y a. Oui, je sais bien que dans une salle, en plus, mais les applaudissements, il n'y a pas qu'à Arc que les gens applaudissent.
Oui, les entrées en scène.
On parlera d'autres spectacles dans le privé où arrive la vedette, on applaudit.
Ah oui.
Bon, voilà, c'est comme ça.
Bon, moi, c'est le monologue de Daroussin qui a été applaudi.
Exactement.
Qui était le seul au milieu de la représentation. Oui. Bon, morceau de bravoure. Bon, on n'est pas d'accord, mais ça nous fait parler. C'est Arc de Yasmina Reza qui n'a pas fini de faire parler, à mon avis, dans cette mise en scène. À nouveau, de Patrice Kerbra, c'est actuellement à l'affiche du Théâtre Antoine. Mais nous avons d'autres sujets à venir dans la dispute. Dans un instant, Jean-Luc Lagarce, puis Simon Stephens.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant avec « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne » de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Chloé Dabert. C'est à la Comédie Française dans sa salle du Vieux Colombier. C'est l'avant-dernière pièce de Jean-Luc Lagarce qui est comme un écho, un prolongement à sa pièce précédente « Juste la fin du monde ». On se souvient qu'elle avait été adaptée l'an dernier au cinéma par Xavier Dolan. Ici, cinq femmes qui ont attendu pendant des années le retour du frère ou du fils ou du petit-fils. Bon, il y a trois sœurs, la mère, la grand-mère. Le fils qui avait été chassé de la maison familiale par son père. Il est revenu, mais elles savent qu'il rentre pour mourir.
Désormais, tout le temps il sera dans sa chambre, tout ce temps qu'il prendra à s'épuiser, à disparaître, tout le temps qu'il prendra à mourir, le temps de l'agonie, tout ce temps, est-ce que cela durera des semaines, des mois? Tout ce temps, les filles, celles-là, les filles pourront s'éloigner, nous laisser le garder, prendre soin de lui, nous laisser le protéger et se soucier de sa respiration, de son souffle, craindre pour lui.
Tu voudrais le garder pour toi, juste pour toi.
Qu'on parte?
Qu'on te l'abandonne?
Je ne sais pas. Oui, est-ce qu'on peut demander cela? Que d'autres qui voudraient être aussi près de la mort à l'œuvre, que d'autres s'éloignent et donnent un peu de solitude? Je ne sais pas. Tu comprends? Et celles-là encore, vous toutes et celles-là encore, peuvent-elles le comprendre?
Chacune d'entre elles, et moi encore, chacune d'entre elles souhaite cela. Exactement ce que chacune d'entre nous souhaite. Ne plus partager, sans se dévorer, non. Ne plus devoir partager. C'est ce que tu voudrais?
Juste cela, oui. Et ce n'est pas rien, et c'est demander beaucoup. Juste cela. L'instant précis.
Elles vont se déchirer, danser leur danse, chercher l'amour, exiger, vouloir qu'il leur parle, qu'il sorte de son sommeil. Elles ne veulent pas comprendre. Elles nous détruiront la vie. Elles ne songent pas à mal, mais elles nous détruiront la vie à longueur de journée, essayer d'obtenir je ne sais quelle vérité. Elles veulent aussi savoir si elles se sont trompées, si toutes ces années furent perdues pour rien. Elles sont terrorisées. Tu peux les regarder. Elles sont terrorisées par le sacrifice.
Tu voudrais juste... Tu demandes ça. Tu voudrais juste qu'on te le laisse. Comme chacune d'entre nous, mais toi, plus encore que les autres. Être seule et le garder.
Je ne l'aurais pas, je crois.
Alors, Cécile Brune est la grand-mère, Clotilde Bézère est la mère, l'aînée des trois sœurs, c'est Suliane Brahim, la seconde Jennifer Decker et la plus jeune Rebecca Marder. Ce sont ces cinq comédiennes de la Comédie française qui sont d'un bout à l'autre de la représentation sur le plateau du Vieux Colombier. Fabienne Pasco, pour commencer.
Alors déjà, notez pour la curiosité que cette pièce, j'étais dans la maison et j'attendais que la nuit vienne, a été créée la même année que Art. 1994, avec que des femmes, quand Art, il n'y avait que des hommes. Mais les ressemblances s'arrêtent là.
Décor, quand même, là, décor blanc. On va en parler.
Oui, le décor blanc aussi, comme quoi, il y a des similitudes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je me suis laissée hypnotiser, envoûter par l'écriture de Jean-Luc Lagarce, qui est tout en répétition, en pas forcément en ellipse, mais en retour, en remâchage pour arriver au plus proche de la vérité, au plus proche des sentiments, au plus proche de l'émotion, au plus proche de la détresse. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est sa manière de convier dans cette histoire toute simple. Et comme d'habitude, c'est souvent un retour dans ces pièces, le retour de l'enfant prodigue. Là aussi, c'est un thème un peu biblique. Jean-Luc Lagarce était d'origine protestante. Et donc, ce retour de l'enfant, il l'a évidemment conjugué dans tout son théâtre, que ça soit quelqu'un qui vienne annoncer qu'il a le sida ou n'y arrive pas, ou là, qui revienne mourir. Mais est-ce qu'il revient vraiment mourir? On ne le sait pas. Jean-Luc Lagarce jongle avec l'attente de toutes ces femmes qui aiment tellement ce frère, ce fils, ce petit-fils, qu'elles s'inventent un rituel pour conjurer l'attente. Là aussi, on pense à Pénélope, on pense au personnage de Maeterlinck qui attendent sans fin. C'est un théâtre où il ne se passe rien, où il ne se passe pas grand-chose, que les mots, que cette attente. Je trouve que sur l'attente, c'est éblouissant ce qu'il arrive à nous dire. Alors, je peux concevoir que ça agace certains spectateurs qui pensent qu'il ne se passe rien, mais moi, je me suis laissée totalement emportée par la détresse de ces femmes, par ces vivants et ces morts qui passent, dont on ne sait pas où est la fiction, où est la réalité. Il n'y a rien que ce poids de l'attente à n'en plus finir, de cette désespérance d'un être qui a disparu, qui revient. On ne sait pas s'il est vraiment là ou s'il n'est pas là. J'ai trouvé ça somptueux.
Bien, écoutez, voilà qu'elle mérite d'être claire. Philippe Chevillé, votre sentiment sur cette production de « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne ».
Moi, je suis plutôt d'accord avec Fabienne. Je trouve la pièce très très belle parce que évidemment, il y a cette dimension tragique de ce que vous disiez, du retour du fils prodigue. Sauf que, à la différence de juste la fin du monde, là, il va mourir. Donc, c'est quelque chose de plus grave, de plus tragique. Et en même temps, il y a aussi cette abstraction qui fait effectivement qu'on ne sait pas très bien où on est, jamais, ou par moment on a tout d'un coup des récits qui nous sont donnés de la vie de ces femmes qui ont attendu toujours, qui sont finalement à force de supporter les hommes qui n'ont pas pu vivre ce qu'elles voulaient vivre. Donc c'est des très beaux moments, des moments plus concrets, plus abstraits. La mise en scène de Chloé Dabert est, je trouve, elle est délicate. On entend bien le texte. Il y a un joli décor, alors qui est signé. Alors c'est amusant parce que c'est signé de Pierre Nouvel, qui est vidéaste, un vidéaste qui fait pas de vidéo, donc ça pourrait. C'est intéressant, je trouve. Et tout en transparence, où on voit aussi une chambre en haut qui pourrait être la chambre du fils comme une menace. C'est assez beau. Et puis alors après, on a les actrices de la Comédie française, les comédiennes. Moi, il y en a une que je trouve au-dessus des autres et qui m'a vraiment bouleversé. C'est Suliane Brahim qui porte le texte, et je pense que c'est celle qui a le plus tout de suite compris ce que lui demandait de Chloé Dabert, c'est qu'à la fois elle a une distance et en même temps cette intensité, une intensité qu'elle a depuis le début. Moi, je me souviens de l'avoir vue dans l'Avare au début, on disait oh là là, elle y va trop fort. C'était l'Avare de Catherine Yeager. Elle y va trop fort, elle est formidable, elle a un potentiel, mais elle y va trop fort. Et là, moi, je trouve que depuis plusieurs productions, elle a vraiment dompté son énergie et qu'on arrive à un jeu qui est à la fois sur la colère, sur le désespoir, sur l'ironie, qui tient vraiment toute la pièce. Les autres sont très bien aussi, on en reparlera. Mais bon, moyennant quoi, j'ai aussi le sentiment que ça peut être une pièce un peu difficile et que par moments on peut se dire que justement la mise en scène est un peu, alors pour le coup, dans un autre genre minimal. Mais franchement, moi aussi j'ai été porté. Et à la fin, je dois dire que sur le dernier monologue de Sullivan Brahim, moi j'avais les larmes aux yeux, ce qui m'arrive de temps en temps, mais pas si souvent que ça quand même.
Et vous, Lucille Comeau, les larmes aux yeux?
Oui, moi aussi j'étais assez émue, et aussi par Sullivan Brahim, que je trouve formidable et qui est celle qui nous fait rentrer dans le texte, qui n'est pas un texte facile à entendre, je trouve. Aussi parce que je pense que son personnage, le personnage de l'aînée qu'elle incarne, oui, est certainement le plus intéressant parmi ces cinq femmes. Puisque,
ça va être le plus important,
celle...
en texte, hein, oui, très simplement.
Puis même,
aussi,
elle,
hein,
elle, en peu de choses, finalement, elle se construit un réel personnage, mmh, alors que d'autres peut-être moins. Notamment, il y a le passage que j'ai préféré, qui est cette digression où elle parle de sa vie amoureuse et de sa vie sexuelle avec sa plus jeune fille, puisqu'elle a une vie avec sa plus jeune sœur, oui. Elle est institutrice ou professeure, et elle a une vie amoureuse, sexuelle, avec des hommes de passage dans un hôtel. Tout ce passage-là est très beau. De manière générale, ce sont les passages, ceux qui échappent un peu à justement cette attente lancinante. Ce sont ces passages-là que j'ai trouvé les plus intéressants dans ce texte, qui, moi, m'a moins plu que vous, Fabienne, que j'ai parfois un peu du mal à entendre. Je pense aussi qu'il a vieilli, pas du tout pour les mêmes raisons, mais qu'il a vieilli dans son style. Tout ce côté cyclique, de répétition, les tics qu'on a entendus d'ailleurs dans le passage qu'on a diffusé, les filles, celles-là, tous ces tics un peu de pronoms, etc., m'agace un peu au fur et à mesure, m'éloigne un peu justement de l'émotion que pourrait procurer le texte. De la même manière, la mise en scène, pour le coup, je la trouve pas minimale, contrairement à ce que vous avez dit, Philippe. Je trouve qu'elle écrase un peu le tout. Donc, à cette maison, elles sont à l'avant-scène, donc elle rentre elle-même très peu en fait dans les espaces que constituent les pièces, la cuisine, le salon, l'escalier, la chambre derrière elle. Elles sont vraiment dans cette espèce dont on comprend très vite, hein, de vestibule de l'existence, où elles ne font qu'attendre et jamais vivre en fait. Et ça, je trouve que c'est presque redondant par rapport à la pièce qui est très très claire. C'était peut-être pas la peine de mettre cette espèce de gros truc derrière, avec l'orage, les bruits d'orage, les bruits de dispute aussi, parce qu'il y a une nappe sonore qui redouble encore une fois un petit peu les émotions qui sont très bien déjà présentes dans le texte, donc pas forcément nécessaire de les souligner. Donc j'ai beaucoup aimé cette pièce, je l'ai bien entendue, tout en ayant à la fois des réserves finalement sur le texte et sur la manière dont il était montré plus que dit, parce que dit, c'est sûr que ça roule quoi. À la Comédie française,
roule,
on les entend bien, oui.
Ouais. Peut-être avant que je m'exprime, comme je ne vous ai pas donné la parole, Boris Pino, sur... pourtant il y avait des commentaires, des quelques commentaires glanés sur Twitter ou Facebook pour « J'étais dans ma maison ».
Oui, d'Hélène Kuttner sur Twitter, qui parle d'un quintet de comédiennes de haute volée pour servir la force d'un texte musical, choral et vital. Frédéric, quant à lui, parle d'un spectacle d'une sensibilité extrême qui fait la place belle au texte de Lagarce, une pièce magistralement jouée, une leçon de théâtre.
Bien, alors moi j'ai une réaction un peu mitigée, je veux dire, devant le spectacle. Moi, contrairement à vous, Lucille Comeau, je trouve que c'est une écriture absolument magnifique, qu'elle est un classique maintenant, je pense. Je pense que Lagarce, il va rester, si vous avez des doutes sur Yasmina Reza. J'en ai moins que vous, mais en tout cas, là, je trouve que c'est du classique contemporain, cette pièce. Alors qu'on on l'a pas vraiment dit, mais essentiellement constituée de monologues, même si les cinq personnages sont toujours présents sur le plateau et les monologues s'adressent la plupart du temps à un autre personnage. Des fois, il y a des toutes petites relances, mais c'est quand même, ça pose des problèmes de mise en scène assez importants. Et moi, il me semble, pour le coup, comme vous, Lucille Comeau, que Chloé Dabert n'a pas trouvé les solutions. Moi, cette scénographie qui est, alors pour le coup, assez de tendance, parce qu'on voit...
Réussi à nous éblouir, quand même.
La scénographie ?
Non, Chloé Dabert.
Je ne suis pas sûr, mais parce que... Bon, la scénographie, on prend cet espace de jeu qui est très à la mode, hein, en ce moment, les maisons, les transparences, sauf que c'est pas un espace de jeu, puisque, comme vous l'avez dit, l'escalier, de toute façon, on ne peut pas y monter, sauf seulement les premières marches, puisque c'est tout en transparence et légèreté. La pièce, le lit, il est suspendu au cintre, parce qu'il n'y a pas vraiment de plancher, donc c'est... Je ne comprends pas bien le sens de cette image. Bon, il y a les branches d'arbres, le jardin, il y a un passage comme ça de Jennifer Decker, c'est assez beau parce qu'elle a un pull rouge, c'est la seule qui a des couleurs sur ce fond blanc, mais je trouve que c'est, elles sont quand même cantonnées au bord du plateau tout, pendant 1h30, ce qui est quand même un peu dommage. L'utilisation du son et de la musique, là, vraiment, moi, je suis, là, pour le coup, assez horripilé par ça, ces infrabasses ou ces pianos pendant les monologues. Ça m'a semblé plutôt être des béquilles dramaturgiques. Et alors, direction d'acteur, d'actrice en l'occurrence, je trouve que ça fait quand même alterner le bon et le beaucoup moins bon, y compris pour les mêmes comédiennes, parce que Soulian Brahim, donc vous en parliez, moi j'ai été tout à fait subjugué par cette entrée en scène, hein, c'est elle qui débute, ce premier monologue, face publique, qui est vraiment tout en subtilité, mais le dernier monologue qui vous a amené les larmes aux yeux, moi j'ai trouvé mais tellement forcé, souvent crié, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Le pire étant la plus jeune sœur, Rebecca Marder, qui a un seul monologue qui est hurlé. Enfin, en tout cas, c'était le cas hier après-midi, d'un bout à l'autre. J'ai l'impression que vous étiez chez Vincent Macaigne. C'était assez...
Pas quand on...
Ah ben, moi, ça a été hurlé du premier au dernier mot. Ça, c'était la représentation d'hier. Du coup, ça devient très vite pénible à écouter. Alors que jouer avec un peu plus de finesse ou de changement de rythme, la langue est très belle, mais là, c'était quand même très fort. Donc, je n'ai pas compris, en fait, ce que faisait tellement Chloé Dabert. Moi, j'étais ébloui par le texte. Je pourrais écouter ça des heures, même si c'est un peu dur. Et quand même, par la grande qualité, on n'a pas parlé de Cécile Brune et de Clotilde Bézère, qui sont vraiment... Alors, c'est presque du miel, même s'il est très acide ici, Fabienne Pascaud.
Mais moi, je trouve que la mise en scène, justement, et cet espace que vous trouvez un peu bizarre, il rend compte un peu de... Mais l'étage avec le lit où on se contorsionne, en tout cas, moi, je me suis contorsionnée un moment pour voir s'il y avait l'ombre d'un fils ou l'ombre d'un corps. On ne le voit pas, donc ça laisse rêver. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Est-ce qu'elles inventent?
On voit un lit vide. Un peu plus loin dans la salle,
Ah oui, bah peut-être un peu plus loin, mais en tout cas, moi où j'étais, on devine. Ce que vous dites, la nature, la branche d'arbre, c'est important parce qu'on est quand même en région, puisqu'on n'ose plus dire province. On est en région et on conçoit, c'est toujours important dans le théâtre de la gare, ce retour dans des campagnes un peu ennuyeuses.
Oui, la maison au bout du chemin, elle le dit au début, oui.
Donc on conçoit l'ennui, ça fait, bon, c'est terrible ce petit bout d'arbre, et qu'elle soit postée devant, c'est comme des vigies. Donc tout ça, moi, pour moi, ça a un sens, et l'espace, il est important, c'est comme un espace de théâtre no pour faire circuler les âmes, et il en circule en permanence. Lucille évoquait tout à l'heure la sœur, mais c'est aussi l'ombre de Tchekhov qui passe, parce qu'on pense aux trois sœurs, elles sont trois sœurs d'ailleurs, dans le spectacle, l'aînée est institutrice, comme dans les trois sœurs de Tchekhov.
Oui, bien sûr.
Et donc cet espace de circulation, ça permet aussi à tous les personnages de théâtre d'exister, de convoquer même les morts. Moi, Cécile Brune, elle est magnifique là-dedans, mais elle me fait penser complètement, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, à une comédienne qui s'appelait Claude Winter.
Bien sûr,
voilà.
Magnifique.
Et ben, elle a la même voix, la même timbre.
Oui, oui. Bon, je n'avais pas pensé.
Même Cécile Brune, elle m'évoque une comédienne passée de la Comédie française. Et donc, ce que j'ai aimé dans cet espace cérébral un peu inventé, un peu fantasmatique, c'est qu'il fait circuler toutes les associations d'idées, tous les vivants et les morts.
Oui, j'aurais préféré qu'il soit plus abstrait, du coup. J'ai l'impression que c'était un peu
blanc,
trop ostentatoire,
c'est des
presque.
Voiles.
Mais c'est une architecture, quand même. Pierre Nouvel, vous me direz.
C'est une architecture, mais là je suis d'accord avec Fabienne, parce que je trouve que justement c'est une maison un peu impossible. C'est aussi un paradis blanc, mais qui peut être un enfer. Enfin, moi j'ai les ressentis comme ça. Et puis alors, on parlait du jeu. C'est vrai que c'est extrêmement, vous le disiez, les monologues, et on le disait aussi avec Fabienne tout à l'heure, les digressions, les incises au milieu des phrases, c'est vraiment un texte d'une difficulté à jouer pour des comédiens et des comédiennes.
Et je pense que ça va être un régal aussi.
C'est un régal, mais je pense que même pour des comédiennes françaises, c'était pas si facile que ça. Et je pense que notamment le soir de la première, par exemple, Clotilde Bézère, je sentais qu'elle n'était pas encore tout à fait calée, ça a dû venir depuis.
Hier, c'était très calé.
Il est possible que Soulian Brahim, par moments, se laisse un peu entraîné par son intensité, mais moi franchement, ça, j'ai pas trouvé ça du tout, pas du tout ça exagéré.
Lucille Comeau, vous l'avez vu quand vous?
Je l'ai vu dimanche dernier, donc je sais pas.
Ouais, c'est un peu plus ancien.
Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'un peu monolithique et qui tient en effet à la forme. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est ce qui frotte en fait. C'est de plus en plus important dans le texte. D'ailleurs, elles n'arrêtent pas de répéter une expression qui est très importante, qui est on s'arrange avec les souvenirs, on s'arrange avec les mots, comme manière de dire de toute façon, on reconstruit chacune des cinq des souvenirs tout à fait différents et des perceptions différentes de ce que c'était le jeune fils et de ce que ce serait son retour, etc. Et ce frottement-là, l'espèce de tension qu'il peut y avoir de rapport de force entre chaque personnage, entre chaque monologue, du coup, je trouve que peut-être, c'est en effet, j'imagine, très compliqué, mais une mise en scène plus subtile, plus sur le texte, aurait peut-être essayé de faire quelque chose de ça. Et la tension, quand en effet, moi aussi, j'ai entendu crier la plus jeune sœur, parce que j'ai trouvé que son monologue, qui est très important, parce que c'est justement un point de bascule, très crié, et que cette tension là, elle soit donnée comme ça, aussi monolithique, c'est dommage parce que ça en perd quelque chose, à mon avis, du texte.
Oui, d'autant que Rebecca Marder, c'est une actrice capable de la plus grande finesse, enfin toutes les cinq, hein, elles sont de très très grandes comédiennes, Fabienne Pascoe.
Ah oui, moi je ne comprends pas parce que moi, c'était, elle n'a pas crié du tout le soir où j'y étais.
Et ben, ça a
Vous avez dû leur faire peur.
On a vu une semaine d'écart, hein, mais non, la metteur en scène a peut-être fait des changements. Mais c'est bien de le voir. Moi, je suis content de pouvoir voir les spectacles. Au moins, au bout d'une dizaine de représentations, évidemment, il se passe des choses un petit peu différentes. Bon, en tout cas, entendre ce texte de Jean-Luc Lagarce par ces comédiennes-là, moi, je pense que c'est quand même un grand moment. Et que ce spectacle, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, est à découvrir au Vieux Colombier pour la Comédie Française. C'est jusqu'au 4 mars, le texte de Jean-Luc Lagarce dans la mise en scène de Chloé Dabert.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, c'est Bluebird, Simon Stephens, traduction de Séverine Magua, mise en scène Claire Devers. C'est au Théâtre du Rond-Point à Paris. On va y découvrir Jimmy, chauffeur de taxi, Jimmy conduisant sa Nissan Bluebird, donc dans la nuit anglaise. 5 ans plus tôt, jour pour jour, il a eu un grave accident dans lequel sa fille est morte. Ce soir, il doit retrouver Claire, la mère de l'enfant.
Un jour, il y a longtemps, ça devait être le silence ici.
De quoi vous parlez ?
Cette ville, elle n'est jamais totalement silencieuse, même quand on croit qu'elle l'est. C'est uniquement parce qu'on est habitué au bruit qu'on a arrêté de le remarquer.
Mais on n'arrête jamais de le remarquer.
C'est en ça que j'aspire parfois. C'est pour ça que je serais prêt à tuer pour qu'il n'y ait plus un bruit, un seul bruit. Comment vont les affaires, Jimmy ? Quoi ?
Rien. On fait aller. Et vous ?
Merdique, tragique.
Vous travaillez dans quoi ?
Je suis mécanicien.
Je vois.
Dans le métro.
Dur travail ?
Travail de maintenance. Soir après soir, je m'en vais lamentablement tenter d'assurer un semblant de solidité mécanique à ce poumon plein de souffle et de vie qu'est le métro de notre capitale.
Et quelle anomalie souterraine ou possible menace à la sécurité publique vous allez soigner ce soir ?
Hey ! Les ampoules.
Je vois.
Vérifiez les transformateurs de 48 ampoules au sol, de chaque côté des rails entre Clapham North et Stockwell.
48 ?
De chaque côté.
Putain, c'est dingue.
Tous plus ou moins nazes. Chaque putain d'ampoule et chaque putain de transformateur entre les deux stations de chaque côté des rails.
C'est terrible.
C'est ça, Jimmy. Terrible. Et avec le temps qu'on se tape depuis 15 jours, il fait tellement chaud là-dessous, putain, que c'est de la folie. Je vais me tirer de là.
Ah, je connais particulièrement bien cette ambition. Pas toujours facile, cela dit. Hein?
Deux caractéristiques définissent la plupart des gens dans cette ville, pour autant que je puisse en juger.
À savoir?
Un, ils viennent d'ailleurs, et deux, ils veulent repartir.
Voilà, Bluebird pour cet extrait. Alors, c'est une pièce qu'on m'a racontée il y a longtemps. Il y a plusieurs années déjà, mais j'ai pas encore vu cette production. Donc j'attends vos avis et vos regards, Philippe Chevillier.
Alors c'est intéressant de voir une cinéaste faire du...
Claire Devers est une excellente cinéaste. Elle a commencé par une caméra d'or à Cannes, c'est quand même pas tout à fait rien.
faire du théâtre, puisqu'on a l'habitude des hommes de théâtre et des femmes de théâtre qui font du cinéma sur le plateau avec vidéo et micro, qui font ça très bien pour beaucoup, hein, je ne vais pas faire toute la liste. Et donc, moi, j'ai toujours le sentiment que les cinéastes qui font du théâtre, ce n'est pas toujours probant. Et ben, ça se confirme une fois de plus. Parce que j'ai trouvé que les intentions étaient bonnes. D'abord, elle prend un texte contemporain qui n'est pas inintéressant. La pièce, on en reviendra, moi je trouve qu'elle a beaucoup de défauts, mais enfin, il n'est pas inintéressant. Elle prend des comédiens qui sont à la base très bons, et sa scénographie, qui est composée d'images de Londres la nuit, diffusées sur des panneaux grillagés, c'est assez beau. Moyennant quoi, d'abord, il y a le problème de cette pièce qui est en fait une succession dans une première partie de rencontres entre le chauffeur de taxi et des personnages qui ont tous vécu des histoires extraordinaires, mais qui sont un peu clichés les uns et les autres, et la façon dont ils sont campés est un peu cliché. Et la deuxième partie, dans laquelle des choses terribles sont révélées entre le mari et cette femme qu'il retrouve 5 années après, ça vire vraiment un peu au mélo, même si c'est un mélo social british, que c'est toujours finement amené. Donc c'est pas si facile que ça à mettre en scène, d'autant qu'elle n'a pas choisi, comme d'aucune, de prendre une caméra pour embarquer dans le taxi. Donc les scènes sont à côté du taxi, un peu figé. Et j'ai trouvé que cette mise en scène était comme ça, très figée, assez compassée, avec des comédiens qui sont bons, mais qui sont un peu à la peine. J'ai trouvé que Toretton, quand même, s'en sortait plutôt bien, surtout vers la fin, mais que ça manquait, et c'est un peu mystérieux, parce qu'au fond, il y avait pas mal de choses en scène qui étaient plutôt positives. Ça manque de théâtre, c'est-à-dire le mystère de la cinéaste ou du cinéaste qui n'arrive pas à trouver le ton pour que ça soit du théâtre en scène. C'est l'impression que j'ai eue.
Lucille Comeau sur Bluebird.
Oui, je suis assez d'accord avec Philippe. En fait, c'est vraiment un spectacle d'où il faudrait partir au bout d'une heure et demie parce qu'on en garderait vraiment, je pense, une bonne impression. C'est-à-dire que toute la première partie est vraiment, de mon point de vue, réussie, vraiment divertissante. Moi, je trouvais que c'était agréable à regarder. En effet, la scénographie avec... moi, j'avais jamais vu ça. La projection d'images sur un support grillagé, c'est très beau parce que ça donne une impression un peu lacunaire. C'est très sombre puisque, de toute façon, ce chauffeur de taxi se promène dans un Londres qui est nocturne, à la fois parce qu'il fait nuit et aussi parce qu'il rencontre que des personnages un peu des oiseaux de nuit. C'est pour ça aussi que ce sont des personnages avec des histoires particulières. Donc, après, c'est une forme très, très classique, hein, ce chauffeur de taxi qui rencontre des gens au fil de sa tournée. On pense évidemment à plein de films et du coup il y a un vrai intérêt, à mon avis, cinématographique, très simple, très référencé, très simple, à voir cette première partie là. Les acteurs changent de rôle, c'est-à-dire qu'il y a donc une comédienne qui joue tous les rôles de charge féminine entre guillemets et deux comédiens qui jouent les clients masculins. Voilà, ils changent avec beaucoup de virtuosité, c'est assez agréable à regarder. Du coup on attend le prochain client un peu avec impatience. Puis la scène, c'est ce que vous disiez, se vide en fait. C'est-à-dire que toute cette scénographie qui est quand même assez impressionnante au départ, il y a beaucoup de choses sur scène, il y a la voiture, il y a le grillage, la vidéo, le son, etc. Se vide en fait pour cette deuxième partie qui est assez détachée au final de la première, qui est extrêmement explicite, très mélodramatique, très redondante. C'est-à-dire que pendant quasiment, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais moi ça m'a paru des heures, pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, on a ce couple qui se déchire trois fois à propos de la même chose. Ça, c'est quand même assez pénible à regarder. Il y a autre chose à propos de ce texte, donc qui, à mon avis, est assez inégal et assez bizarrement construit, c'est aussi sa traduction. Très étonnant, d'ailleurs, on l'entendait. Il y a des anglicismes énormes, à tel point que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas juste un mauvais boulot, entre guillemets, traducteur, c'est fait exprès. On nous donne une sorte de VF un peu. Moi, j'avais l'impression d'entendre Toretton parler en français par-dessus de l'anglais. Enfin, c'est très bizarre. Donc, au début, ça m'a pas trop gênée, parce que je trouvais que ça allait bien avec le côté cliché du cinéma, qu'après tout, bon, on nous donne à voir une sorte de bric-à-brac de cinéma américain ou anglais. Et alors, en revanche, dans la seconde partie, quand le texte s'affaiblit et qu'on est dans le mélo, le côté hyper artificiel, putain d'eux, des expressions très anglaises qu'on entend en anglais, bah du coup c'est un peu bizarre quoi, ça coupe complètement l'émotion qu'on peut avoir, et dans le mélo sans émotion reste plus rien, donc on s'ennuie quand même un petit peu.
Bon, Fabienne Pascaud, on en a un qui n'aime pas du tout une à moitié, peut-être que vous pourriez...
Moi, j'aime l'autre moitié. Ah, j'aurais supprimé la première moitié, que je trouve tous les clichés possibles sur le taxi, les personnages un peu caricaturaux, qui ont tous des problèmes, la prostituée, le mec qui a perdu sa fille, qui revient sur les lieux de... Le jeune homme défoncé, enfin bref, je les trouve ni fait ni à faire, je trouve cette pièce très 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 mauvaise. Ah. Et je ne comprends pas que Claire Devers soit allée chercher ce Simon Stephen là qui fait de la caricature du je sais pas, ça pourrait être une série télé ou comme le disait Lucille un film. Mais alors pourquoi nous embêter et faire toute sa com sur Claire Devers, la cinéaste qui vient au théâtre pour faire du théâtre. Elle nous fait du mauvais cinéma sur scène. Moi, les images, les incrustations vidéo. J'ai pas aimé du tout. Voir Philippe Torreton dans le rétroviseur comme dans Taxi Driver, j'ai pas du tout aimé non plus. Je trouve que dans cette petite salle Tardieu, trouver le moyen de sonoriser les acteurs qui sont à 2 mètres de vous, c'est quand même le comble de l'idiotie. J'aurais aimé entendre la vraie voix de Torreton, la vraie voix des autres comédiens qui sont d'ailleurs bons. Mais je comprends pas ce cinéma bon marché et mauvais qu'on nous impose sur une scène de théâtre, au secours, quoi. Donc, toutes les personnages caricaturaux du début, j'en aurais supprimé la moitié. Déjà, ça nous faisait, parce que la pièce dure quand même 2h15, donc ça nous faisait une économie de temps. Et moi, en revanche, le côté mélo, j'ai bien aimé, parce que j'ai trouvé Philippe Torreton remarquable. Le jour où j'y étais, il était remarquable. C'était pas pour lui, je crois, qu'était écrit le rôle. Enfin, c'était pas lui qui devait jouer le rôle, c'était Grégory Gadebois. Et donc, on imagine le côté pâteau de Gadebois, cette souffrance brute, cette chair un peu sans parole, comme ça. C'est vrai qu'il est plus intello. Il a joué le psychanalyste avec ses clients pendant toute la première partie. Donc là, il se met lui-même sur le divan. Je l'ai trouvé émouvant. J'ai trouvé les relations avec la femme intéressantes. J'ai pas trouvé tant de pathos. Moi, c'est cette partie-là que j'ai aimée. Parce que j'ai trouvé que c'était... maintenu par le jeu des deux comédiens. Tous les comédiens sont bons, hein, mais pour moi, c'est la pièce qui n'est pas bonne, c'est la mise en scène.
La traduction, ça vous a pas gêné, ce que disait Lucille Como sur les anglicismes?
Au point où j'en étais, la bêtise de cette pièce, j'écoutais même plus la traduction. Bon. Hein, donc,
d'accord. Voilà. Ok, Philippe Chevillé.
Donc, elle n'a pas beaucoup aimé non plus, Fabienne. Mais sur la traduction, moi aussi, j'étais frappé. Ça m'agace quand tout d'un coup, on entend des. Et ça fait ce que vous disiez.
De toute façon, tout est faux. Alors,
ça sonne
que
faux.
La traduction
mais
soit
fait exprès, hein,
mais,
moi, c'est...
Mais je pense qu'elle a essayé, Claire Devers, de faire un travail théâtral, c'est-à-dire que elle fait pas vraiment du cinéma parce qu'elle projette des images. En fait, les images c'est du décor. C'est du décor. Elle se sert pas des images. Même je crois quand on aperçoit il y a pas de caméra en direct.
Ça pue le cinéma à longueur
oui,
de scène. Hein.
Oui, certes, mais en même temps, elle a essayé de transcrire ça sur une scène et c'est intéressant et amusant de penser que finalement les gens de théâtre arrivent maintenant plus à faire du cinéma sur scène. Qu'une cinéaste arrive à en faire, ou en tout cas à en faire du théâtre, mais encore une fois, elle l'a pas pris à l'emporte-pièce, elle a essayé, mais c'est vrai que le résultat, et moi je trouve que cette sensation, par moment, de me dire, je regarde des gens sur scène, mais j'ai pas l'impression que c'est du théâtre, je les vois jouer, et tout ça, c'est vraiment très fort. Alors il y a Marie Raymond qui est très bonne d'habitude, qui est un petit peu moins bien là, bon, mais ils sont tous bien, il y a le jeune Baptiste là, on sent qu'il y a, ils ont des moments, des fulgurances où ils sont pas mal.
Est très bien avec son accent.
Oui, oui, il est bien aussi, mais ça manque de cette étincelle de théâtre qui ne peut être communiquée que par quelqu'un qui porte ça. Enfin, c'est assez mystérieux pour moi, ça m'a intéressé.
Lucille Como, pour finir.
Oui, en fait, c'est vrai que c'est dur pour les comédiens parce que le texte est faible, donc ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et du coup, je pense que ça explique un peu le côté artificiel, c'est-à-dire cette langue un peu bizarre. La sonorisation, je pense, c'est lié. Je pense qu'elle a vraiment voulu mettre à distance quelque chose. Et donc, la sonorisation, c'est évidemment pas pour que les gens du fond entendent, parce que je ne pense pas qu'elle est bête comme ça et qu'elle sait très bien qu'on les entend dans le fond.
Elle a voulu éviter le naturalisme
du théâtre. Oui, je pense, parce que ce texte-là, l'est profondément et que du coup elle a dû essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué ou d'un peu sophistiqué à partir d'un texte un peu simple. Moi je l'interprétais comme ça et du coup je trouvais pas ça inintéressant. En revanche sur le jeu des acteurs, c'est vrai qu'ils sont pas servis, même Toretton, enfin à la fin ça devient pénible, c'est archi fléché qu'il lui est arrivé un truc horrible dans la vie, on le devine quasiment du moment où il entre sur scène et il a cette tête de chien battu du début à la fin, c'est quand même un petit peu pénible. Et pour le coup, je trouve que le mauvais film, c'est la fin. Parce que là, pour le coup, c'est du mauvais cinéma, ce mélo. C'est chiant.
C'est vrai. Comment on se lâche. Le mot de la fin pour Boris Pinot et Twitter ou Facebook, je ne sais pas.
Un avis définitif de Marie Vérinck sur Twitter. Cette pièce est géniale, interprétée par d'incroyables comédiens. Un décor très réussi. On suit Jimmy, chauffeur de taxi, pendant 2 heures exquises. Foncez.
Bon, ben voilà quelqu'un qui a tout aimé. Pour conclure cette dispute consacrée à Bluebird de Simon Stephens, mise en scène Claire de Verre, jusqu'au 4 mars au rond-point à Paris. Puis il y aura 2 dates à Sartrouville, les 29 et 30 mars au théâtre de Sartrouville. Et puis du 3 au 7 avril au Célestin à Lyon. Et nous passons au jeu de la dispute avec Camille André qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu, pas d'hier soir, mais de vendredi soir, et nous donner sa réponse, Camille.
Dans quel film fut révélée l'actrice Pauline Lauriard à l'affiche des Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot ? Et la réponse était Un amour de jeunesse.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition En suspens, à découvrir jusqu'au 13 mai au bal à Paris. Quelle est la question, Camille ?
Welcome to Camp America est le projet qui marque le retour à la photographie de Debbie Cornwall, présente à l'exposition En suspens. Où furent prises ces photographies ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast pour continuer à battre des records de téléchargement. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, moins qu'on attendait le direct pour commenter sur le compte Twitter Dispute FC. Demain donc à 19h, une dispute consacrée à la musique en compagnie de Lucille Como qui fera la passe de 4, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis, notre affiche Moscou Paradis d'après Shostakovich, c'est à la télé théâtre Louis Jouvet, Marin Marais, pièce de viol, un disque chez Mirard et par l'ensemble La Rêveuse, et enfin un DVD chez Bel Air Classique, celui des Noces de Figaro de Mozart, dirigé par René Jacobs, mise en scène de Jean-Louis Martinotti.